Audiolib présente J'entends un nouveau monde. Long London, tome 2, d'Alan Moore. Traduit de l'anglais par Claro. Lu par Stéphane Ronchevski. Pour Volodymyr Zelensky et les antifascistes du monde entier, ils ne passeront pas. Au début était la musique. Classique. Sabot après sabot, Atlas progresse péniblement dans Gillespie Road, sous un crachin qui éloigne les grosses mouches de septembre. L'année 1913 s'achevant en un beau précipité, les Principia Mathematica, Stravinsky, les compteurs Gégère et l'escalade de la peur dans le ventre de l'Europe, formant des gouttelettes sur la robe sombre et lustrée de l'animal, le trempant dans le siècle. Le cubisme et Apollinaire agence la lumière blonde, la boue marbrée. Devant lui, noyé dans la brume pluvieuse, le vaste talus crasseux appelé à devenir un terrain de foot grouille d'impairs noirs et de casquettes plates. Tous les ouvriers et les habitants du coin qui s'activent et apportent leurs détritus pour alimenter les futures fondations. Tirant, non sans mal, un chariot plein de landaux à trois roues et d'essoreuses cassées, l'imposant Shire gravit d'un pas lourd une pente, déjà éreintée par la précédente montée de Highbury Hill. Le grondement des roues en bois sur les pavés mouillés s'élève, parmi les imprécations criardes et les patientes pelletées dans la sombre orchestration du matin. La terre éventrée, qui s'emplit déjà de détritus, est appelée à devenir la tribune nord quand l'équipe d'Arsenal migrera de l'autre côté du fleuve, délaissant ses quartiers actuels dans l'arsenal de Woolwich. Mais cela, la bête l'ignore. Dans sa vision amplement réduite par des œillères, le bord de la fosse approche. La terre retournée est argentée de rigoles, alors que les ouvriers penchés sur leurs pioches crachent, découragés, dans le brouillard de pluie. Debout à l'avant de la charrette, voûté dans son manteau moite de chien mouillé, le propriétaire d'Atlas secoue les rênes et grommelle des épithètes pour presser son énorme bête de somme vers l'obscur remblai, tous deux aveuglés par l'averse qui cingle leurs yeux. Il n'est pas encore 10 heures et déjà ce sinistre samedi touche à son crescendo. Tous ses tendons parcourus de douleurs lancinantes, l'imposante bête finit par s'arrêter en s'ébrouant et frissonne au bord de l'abîme, secoue sa longue tête pour chasser un soudain essaim de mouches bleues. Braillant des ordres incompréhensibles de sa voix sèche et croissante, le charbonnier saute à bas de son perchoir pour rejoindre les ouvriers qui débattent à voix basse autour du trou. Ses yeux là, contemplant naïvement le ciel, une dernière fois, la puissante machine de poils et de cuisses pisse longuement dans le bourbier déjà visqueux qu'est le rebord de l'excavation. Soudain, venant de l'arrière, s'élève un fracas alors que le haillon du chariot est abaissé au bout des raides diagonales de ses chaînes. Puis ce sont des grognements et des chocs quand le premier pesant objet est déchargé. Après cet allègement, l'équilibre du véhicule se voit légèrement modifié, imprimant une poussée à l'animal épuisé, contraint dans ses brancards, lequel hennit, dresse une oreille et fait un pas dans le vide. L'instant est distendu, fractionné en d'infinis degrés, alors que sa patte avant se raidit, s'efforçant de corriger son avancée, mais ne faisant que creuser un sillon humide dans la boue qui déjà capitule. Les sabots arrière, au fanon hirsute, raidis par la boue, tentent machinalement de revenir en arrière, sans trouver la moindre prise. Et quand l'inévitable glissade a lieu, des cris d'alarme montent de l'arrière du véhicule qui grince et se soulève.